Chapitre 10. Et maintenant, disons, avant de terminer, un mot de ces deux termes, issus de l'école anglaise, altruisme et égoïsme, dont on nous écorche continuellement les oreilles. Jusqu'à présent, nous n'en avons même pas parlé dans cette étude. C'est que nous ne voyons même pas la distinction que les moralistes anglais ont cherché à introduire. Quand nous disons « Traitons les autres comme nous voulons être traités nous-mêmes », est-ce de l'égoïsme ou de l'altruisme que nous recommandons? Quand nous nous élevons plus haut et que nous disons « Le bonheur de chacun est intimement lié au bonheur de tous ceux qui l'entourent », on peut avoir par hasard quelques années de bonheur relatif dans une société basée sur le malheur des autres. Mais ce bonheur est bâti sur le sable. Il ne peut pas durer. La moindre des choses suffit pour le briser. Et il est misérablement petit en comparaison du bonheur possible dans une société d'égo. Aussi, chaque fois que tu viseras le bien de tous, tu agiras bien. Quand nous disons cela, est-ce de l'altruisme ou de l'égoïsme que nous prêchons? Nous constatons simplement un fait. Et quand nous ajoutons, en paraphrasant une parole de Guyot, « Sois fort, sois grand dans tous tes actes, développe ta vie dans toutes les directions, sois aussi riche que possible en énergie, et pour cela, sois l'être le plus social et le plus sociable, si tu tiens à jouir d'une vie pleine, entière et féconde. » Guidé toujours par une intelligence richement développée, lutte, risque, le risque à ses jouissances immenses, jette tes forces sans les compter, tant que tu en as, dans tout ce que tu sentiras être beau et grand, et alors tu auras joui de la plus grande somme possible de bonheur. Sois un avec les masses, et alors, quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu sentiras battre avec toi précisément les cœurs que tu estimes, et battre contre toi ceux que tu méprises. Quand nous disons cela, est-ce de l'altruisme ou de l'égoïsme que nous enseignons? Lutter, affronter le danger, se jeter à l'eau pour sauver, non seulement un homme, mais un simple chat, se nourrir de pain sec pour mettre fin aux iniquités qui vous révoltent, se sentir d'accord avec ceux qui méritent d'être aimés, se sentir aimé par eux, pour un philosophe infirme, tout cela est peut-être un sacrifice. Mais pour l'homme et la femme plein d'énergie, de force, de vigueur, de jeunesse, c'est le plaisir de se sentir vivre. Est-ce de l'égoïsme? Est-ce de l'altruisme? En général, les moralistes qui ont bâti leur système sur une opposition prétendue entre les sentiments égoïstes et les sentiments altruistes ont fait fausse route. Si cette opposition existait en réalité, si le bien de l'individu était réellement opposé à celui de la société, l'espèce humaine n'aurait pu exister. Aucune espèce animale n'aurait pu atteindre son développement actuel. Si les fourmis ne trouvaient un plaisir intense à travailler toutes, pour le bien-être de la fourmilière n'existerait pas. Et la fourmi ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, l'être le plus développé parmi les insectes, un insecte dont le cerveau, à peine perceptible sous le ver grossissant, est presque aussi puissant que le cerveau moyen de l'homme. Si les oiseaux ne trouvaient pas un plaisir intense dans leur migration, dans les soins qu'ils donnent à élever leur progéniture, dans l'action commune pour la défense de leur société, contre les oiseaux rapaces, l'oiseau n'aurait pas atteint le développement auquel il est arrivé. Le type de l'oiseau aurait rétrogradé au lieu de progresser. Et quand Spencer prévoit un temps où le bien de l'individu se confondra avec le bien de l'espèce, il oublie une chose. C'est que si les deux n'avaient pas toujours été identiques, l'évolution même du règne animal n'aurait pu s'accomplir. Ce qu'il y a eu de tout temps, c'est qu'il s'est toujours trouvé, dans le monde animal comme dans l'espèce humaine, un grand nombre d'individus qui ne comprenaient pas que le bien de l'individu et celui de l'espèce sont, au fond, identiques. Il ne comprenait pas que, vivre d'une vie intense étant le but de chaque individu, il trouve la plus grande intensité de la vie dans la plus grande sociabilité, dans la plus parfaite identification de soi-même avec tous ceux qui l'entourent. Mais ceci n'était qu'un manque d'intelligence, un manque de compréhension. De tout temps, il y a eu des hommes bornés, de tout temps, il y a eu des imbéciles. Mais jamais, à aucune époque de l'histoire, ni même de la géologie, le bien de l'individu n'a été opposé à celui de la société. De tout temps, il restait identique. Et ceux qui l'ont le mieux compris ont toujours joui de la vie la plus complète. La distinction entre l'égoïsme et l'altruisme est donc absurde à nos yeux. C'est pourquoi nous n'avons rien dit non plus de ces compromis que l'homme, à en croire les utilitariens, ferait toujours entre ses sentiments égoïstes et ses sentiments altruistes. Ces compromis n'existent pas pour l'homme convaincu. Ce qui existe, c'est que réellement, dans les conditions actuelles, alors même que nous cherchons à vivre conformément à nos principes égalitaires, nous les sentons froissés à chaque pas. Si modeste que soit notre repas et notre lit, nous sommes encore des Rothschild en comparaison de celui qui couche sous les ponts et qui manque si souvent de pain sec. Si peu que nous donnions aux jouissances intellectuelles et artistiques, nous sommes encore des Rothschild en comparaison des millions qui rentrent le soir, abrutis par le travail manuel, monotone et lourd, qui ne peuvent pas jouir de l'art et de la science et mourront sans jamais avoir connu ces hautes jouissances. Nous sentons que nous n'avons pas poussé le principe égalitaire jusqu'au bout, mais nous ne voulons pas faire de compromis avec ces conditions. Nous nous révoltons contre elles. Elles nous pèsent. Elles nous rendent révolutionnaires. Nous ne nous accommodons pas de ce qui nous révolte. Nous répudions tout compromis, tout armistice même. Et nous nous promettons de lutter à outrance contre ces conditions. Ceci n'est pas un compromis, et l'homme convaincu n'en veut pas qu'il lui permette de dormir tranquille en attendant que cela change de soi-même. Nous voilà enfin au bout de notre étude. Il y a des époques, avons-nous dit, où la conception morale change tout à fait. On s'aperçoit que ce que l'on avait considéré comme moral est de la plus profonde immoralité. Ici, c'était une coutume, une tradition vénérée, mais immorale dans le fond. Là, on ne trouve qu'une morale faite à l'avantage d'une seule classe. On les jette par-dessus bord et l'on s'écrie « À bas la morale !» On se fait un devoir de faire des actes immoraux. Saluons ces époques. Ce sont des époques de critique. Elles sont le signe le plus sûr qu'il se fait un grand travail de pensée dans la société. C'est l'élaboration d'une morale supérieure. Ce que sera cette morale, nous avons cherché à le formuler en nous basant sur l'étude de l'homme et des animaux. Et nous avons vu la morale qui se dessine déjà dans les idées des masses et des penseurs. Cette morale n'ordonnera rien. Elle refusera absolument de modeler l'individu selon une idée abstraite, comme elle refusera de le mutiler par la religion, la loi et le gouvernement. Elle laissera la liberté pleine et entière à l'individu. Elle deviendra une simple constatation de fait, une science. Et cette science dira aux hommes, « Si tu ne sens pas en toi la force, si tes forces sont juste ce qu'il faut pour maintenir une vie grisâtre, monotone, sans fortes impressions, sans grande jouissance, mais aussi sans grande souffrance, eh bien, tiens-t'en au simple principe de l'équité égalitaire. Dans des relations égalitaires, tu trouveras, à tout prendre, la plus grande somme de bonheur possible, étant donné tes forces médiocres. Mais si tu sens en toi la force de la jeunesse, si tu veux vivre, si tu veux jouir de la vie entière, pleine, débordante, c'est-à-dire connaître la plus grande jouissance qu'un être vivant puisse désirer, Sois fort, sois grand, sois énergique dans tout ce que tu feras. Sème la vie autour de toi. Remarque que tromper, mentir, intriguer, ruser, c'est t'avilir, te rapetisser, te reconnaître faible d'avance. C'est faire comme l'esclave du harem qui se sent inférieur à son maître. Fais-le si cela te plaît, mais alors sache d'avance que l'humanité te considérera petit, mesquin, faible, et te traitera en conséquence. Ne voyant pas ta force, elle te traitera comme un être qui mérite de la compassion seulement. Ne t'en prends pas à l'humanité si toi-même tu paralyses ainsi ta force d'action. Sois fort au contraire. Et une fois que tu auras vu une iniquité et que tu l'auras comprise, une iniquité dans la vie, un mensonge dans la science ou une souffrance imposée par un autre, révolte-toi contre l'iniquité, le mensonge et l'injustice. Lutte. La lutte, c'est la vie. D'autant plus intense que la lutte sera plus vive. Et alors tu auras vécu, et pour quelques heures de cette vie, tu ne donneras pas des années de végétation dans la pourriture du marais. Lutte pour permettre à tous de vivre, de cette vie riche et débordante, et sois sûr que tu ne trouveras dans cette lutte des joies si grandes que tu n'en trouverais pas de pareilles dans aucune autre activité. C'est tout ce que peut te dire la science de la morale. À toi de choisir.